Salut, moi c'est Niki.
Moi c'est Bi.
Bienvenue dans le podcast Madame Attrape ton cœur.
Une conversation à cœur ouvert entre deux copines d'origine camerounaise et bissau-guinéenne
qui ont quitté leur vie parisienne pour s'installer à Abidjan.
Dans ce podcast, on vous parlera entre autres d'identité, de féminisme, de carrière professionnelle,
d'expatriation, de santé mentale, d'art et de culture.
À quoi bah.
Merci d'avoir écouté la première partie de l'épisode où nous parlions des origines et des manifestations du White Savior en Côte d'Ivoire. Pour cette deuxième partie, on vous parlera des formes de dénonciation du White Savior, le White Savior versus le Black Savior, avec quelques tips en supplément, et enfin on vous parlera de nos kiffs du moment. Enjoy!
En fait, tout à l'heure, tu as parlé du No White Savior.
Ouais.
Donc, c'est un hashtag dont on a entendu parler. Est-ce que tu pourrais revenir un peu plus dessus? Et aussi, est-ce qu'il y aurait d'autres ressources ou des actions qui sont mises en place pour sensibiliser ou dénoncer justement ce phénomène de White Savior?
Bah, le No White Savior Movement, c'est un compte Insta, en fait, qui est fait en Ouganda. Et en gros, qui justement va dénoncer ce complexe du sauveur blanc sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est très bien fait. Et aussi, ils font la part des choses. Ils disent bien aux lecteurs que ce n'est pas tout le monde qui est concerné par ça. Et ils donnent des outils pour reconnaître ce genre de pratique. Il y a aussi le compte Barbie Savior sur Instagram, aussi, qui est un compte satirique et qui raconte les aventures de Barbie en tant qu'humanitaire dans des pays africains. Tu vois. C'est très, très marrant. Et justement, ça dénonce toute cette culture du complexe du sauveur blanc. En gros... la personne qui va quitter sa famille moyenne aux États-Unis pour aller sauver des enfants au Kenya, on sait pas trop pourquoi, enfin bref, voilà, juste pour avoir cette expérience là la plupart du temps c'est pour nourrir son ego, parce qu'il faut dire ce qu'il y a. Pour moi, d'après ce que je vois, n'importe qui de non blanc peut venir en Afrique et avoir une expérience émouvante qui permettra de nourrir son ego, tu vois. Parce que malheureusement, il faut le dire, moi, dans ce que je vois, dans le contexte dans lequel j'évolue, plus ta peau est claire, bah, plus t'as un passe-droit, en fait. On rentrera plus en profondeur dans tout ça. Enfin, on se connaît dans notre communauté avec tout ce qui est colorisme et tout ça. Non, on se connaît. On rentrera plus en détail dans tout ça. Pour moi, ce qu'on pourrait faire, c'est dénoncer ce genre de comportement. Tout le temps, toujours, enfin voilà, ne pas laisser passer. C'est vrai que dans un contexte d'entreprise, comme tu l'as dit, c'est un peu plus délicat. Mais personnellement, enfin, à l'échelle de l'individu, il faut dénoncer ce genre de cas. Il faut savoir les reconnaître et dénoncer.
Ouais, c'est vrai que dénoncer, ça permet d'ailleurs toi de te libérer sur le plan émotionnel, parce que ça a un impact sur ta santé mentale si tu es témoin ou tu es victime de ça au quotidien. Mais est-ce que ce serait pas trop lourd au bout d'un moment pour certains de toujours dénoncer? Il y aurait pas d'autres alternatives?
Bah écoute, moi personnellement, je sais que quand je rentre dans une situation comme ça, et d'ailleurs j'ai longtemps culpabilisé par rapport à ça, moi je réponds pas, parce que pour moi ça me prend un peu trop d'énergie, et pour moi la seule réponse que tu auras en face, ça sera une crise de colère, ça sera peut-être de la violence et tout, mais je suis pas quelqu'un de violent. Mais, pour moi, une autre alternative, c'est ce podcast, tu vois. On s'exprime dessus, on dit ce qui ne va pas, on fait des constats et tout. On partage nos expériences. Pour moi, c'est ce moyen-là, cet exutoire que j'ai. Après, ça peut être adhérer à des associations, ça peut être même à l'échelle de la famille, expliquer à notre mère pourquoi on ne dit pas « le blanc est fort », enfin voilà. Des petites phrases comme ça qu'il faut changer au quotidien. Pour moi, c'est les petites choses qui font après des choses énormes, tu vois. C'est vraiment, nous, à notre échelle, voir dans quelle mesure on peut agir, quoi. Que ça soit à travers des dons d'associations qui soutiennent qui dénoncent ce genre de discrimination, que ça soit à travers notre podcast, que ça soit même à travers le partage de liens sur les réseaux sociaux. On l'a bien vu avec les deux oiseaux soi-disant médecins qui ont dit qu'ils voulaient faire des tests sur l'Afrique. Enfin voilà, il y a eu un tel tollé qu'au final, bon, voilà, ça s'est transformé en excuse. Les gens maintenant font attention. On a tendance à dire que oui, les politiques ne foutent rien. Oui, d'accord, les politiques. Mais pour moi, c'est l'opinion publique qui compte le plus. Si on prend, ça j'avais vu à la télé, vous me direz si c'est vrai ou pas, si on prend le modèle de l'Éthiopie, l'Éthiopie n'a pas attendu les institutions gouvernementales pour être au niveau là où elle est aujourd'hui, tu vois. Elle a compté sur ses entrepreneurs pour ça. Donc pour moi, c'est tout ce travail, pour moi le travail est fait par l'opinion publique.
Après, l'Éthiopie, c'est un bel exemple, sauf que l'Éthiopie, ça reste cette Afrique, on va dire, anglophone, qui, tu vois, ils ont un fonctionnement très porté sur le secteur privé, l'entrepreneuriat, les gens, on va dire, sont plus dans le mouvement, contrairement, je trouve, à l'Afrique francophone, où les gens sont plus dans, on va dire, dans la discussion, dans les belles paroles. Faut dire ce qui est, c'est vrai que l'Afrique francophone, ça parle, ça te fait des belles tribunes, ça parle, maîtrise très bien le verbe, le français d'ailleurs, mais derrière, il n'y a pas d'action en fait. Donc est-ce que finalement, la population ne serait pas aussi, on va dire, prise par cet élan et un peu désemparée et toujours parler, mais derrière, ça ne bouge pas en fait.
Bah en fait, juste, ça revient à ce que je dis, c'est parce qu'on compte trop sur nos politiques en fait, faut pas. Tu me dis, ok, c'est une mindset tournée vers le secteur privé et tout. T'as quand même des gens qui ont ce recul là pour se dire, il y a un problème avec notre système actuel, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche bien, tu vois? C'est vrai que ces voix ou ces, on va dire, conscience éveillée entre guillemets, on va revenir sur ce terme-là, conscience éveillée entre guillemets, sont isolées. Moi personnellement, je ne connais pas encore de groupe assez qui est assez de poids pour défendre ce genre d'intérêt là. Par exemple, pour montrer à quel point l'opinion publique peut être forte en face d'une institution gouvernementale, au Cameroun, justement pour lutter en solidarité contre le virus, tu as le parti opposant qui a réussi à lever un 500 000 d'euros. Pour soutenir justement la population face à ce virus-là. Donc pour moi c'est possible en fait. On n'a pas à attendre les politiques. Je pense qu'ils ont d'autres problèmes légitimes ou non à gérer, j'en sais rien. On n'a pas à les attendre pour faire certaines actions, tu vois. Là, ils ont réussi à lever 500 millions d'euros. Imagine si tout le monde était dedans. Imagine ce qu'on peut lever comme fonds, tu vois. Vu qu'on sait tous que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si on se met tous ensemble, imagine ce qu'on peut faire.
Oui, c'est vrai que j'ai lu et j'ai vu pas mal d'initiatives dans beaucoup de pays, que ce soit en Côte d'Ivoire, même en Guinée-Bissau. Après, c'est toujours des initiatives à petite échelle.
Isolées.
Après, ça permet d'aider des petites populations. Mais c'est vrai que s'il y avait une unité derrière, un regroupement, l'impact serait plus important. Et comme tu dis... on tendrait moins la main ou on aurait moins d'attentes vis-à-vis en fait des hommes politiques.
C'est ça.
Que les ont un agenda particulier.
Voilà. Ils n'ont qu'à gérer ce qu'ils doivent gérer et nous on gère ce qu'on peut gérer, tu vois.
Donc à t'entendre en fait, donc du coup c'est vrai que ce serait bien que les initiatives viennent des concernés, donc là en l'occurrence des Africains. Mais après moi ce que j'ai lu et j'ai souvent entendu, c'est que des gens qui essayent d'opposer en fait le phénomène de Black Savior au phénomène de White Savior. Donc, est-ce que finalement c'est fondé cette opposition ou c'est vraiment du fantasme?
Ah non, moi je ne les mettrai pas en face parce que c'est pas la même portée pour moi. Pour la simple et unique raison, tu verras rarement un avion rempli d'Africains aller voler au secours des enfants au Yémen ou en Syrie, tu vois. Pour donner un exemple comparable, donc pour moi c'est pas du tout la même portée, c'est pas du tout la même échelle, mais c'est vrai qu'il y a ce phénomène aussi de Black Savior. Bon, comme j'avais dit dans les épisodes précédents, moi aussi, enfin voilà, j'étais coupable de ça. On vient avec une vision eurocentrée et on se dit qu'on a les réponses aux problèmes qu'on fait, enfin les problèmes quotidiens, tu vois, dans le pays, alors que pas du tout au final. Par exemple, une phrase que moi j'aimais bien dire avant de me faire reprendre par notre chère amie Tidiane, que je salue au passage, c'est, moi j'aimais bien dire, ici les gens, enfin les taxis, surtout les taxis, ne savent pas chercher l'argent, tu vois. Pour moi, parce que pour moi, le temps égale l'argent. Or, si tu verras souvent sur le pare-brise des taxis, c'est marqué, le retard n'empêche pas le bonheur, tu vois. Enfin, ouais. Ouais, c'est tout ça vrai. Pour dire que, ici, au final, l'équation le temps égale argent n'est pas valable, n'est pas applicable en fait. Moi, j'arrive avec ma vision de France, temps égale argent, tu perds pas de temps, tu gagnes des sous, enfin voilà. Mm-hmm. Alors qu'ici, ça s'applique pas du tout, tu vois.
Et c'est un concept français. En fait, c'est comment dire ? C'est lié à la langue. Mm. Parce que dans des langues africaines, notamment le Djula, ça n'existe pas en fait. Parce que leur notion du temps est cyclique. Ce que tu n'as pas fait aujourd'hui, tu le feras demain. Si tu n'as pas fait demain, tu le feras après demain.
Tu vois, tu me l'apprends. Hein. Mm. Ça, je ne savais pas, tu vois. Alors, quand tu arrives ici, sur tes grands chevaux et tout, tu dis, ouais, bon, c'est comme ça que ça doit être pour qu'on avance plus vite. Mais en fait, on a tendance à oublier qu'on vient avec un mindset complètement français, tu vois. Mm-hmm. On a juste la couleur qui est locale, mais on n'a pas le bon mindset pour résoudre les problèmes qui sont ici. Et même, ce n'est pas à nous de les résoudre, au final. On peut apporter notre contribution, mais ce n'est pas à nous. Les gens qui ont ces problèmes-là sont mieux placés pour résoudre ce problème-là eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire ?
Effectivement.
C'est aussi ça le problème avec ce complexe de sauveur. On se sent investi d'une mission alors qu'au final, les gens t'ont rien demandé.
Est-ce que parfois, c'est pas justement ces gens qui t'incitent à avoir cette position ? Parce que si on prend le contexte un peu... Bon, j'ai vu en Côte d'Ivoire, mais je le connais très bien au Guinée-Bissau, c'est qu'on attend beaucoup de la diaspora. Ouais. Dans le sens où on attend une aide, que ce soit financière ou intellectuelle, ce qui fait que ça peut-être monter à la tête en fait, de ces personnes en se disant « bon, effectivement, je suis investi d'une mission ».
Oui, ça arrive, il ne faut pas se mentir, il y a une pression sociale énorme dans les... Enfin, moi, je sais qu'au Cameroun, il y en a, notamment avec les benguistes. C'est vrai que ça peut monter à la tête, mais aussi, il faut dire la vérité. Excusez-moi, en France, voilà, c'est chaud. Il faut dire ce qu'il y a, la vie est dure, tu vois. Il faut aussi essayer d'expliquer aux personnes que c'est pas tout rose, en fait. Enfin, la vie est chère là-bas. Et c'est vrai qu'aussi, dans nos sociétés, les gens ont tendance à être rejetés quand ils ne réussissent pas, entre guillemets, en Europe. Parce que t'as tout un système qui est mis en place, qui est très, très vicieux. T'as des gens qui s'endettent pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'extérieur. Et quand ces enfants-là ne réussissent pas, ben bref... Encore une fois, t'as l'argent qui motive tout ça. Mais pour moi, c'est aussi de dire la vérité, tu vois, de montrer de plus en plus qu'en fait, ok, c'est pas parce que je suis revenue avec une valise soi-disant Louis Vuitton que la vie roule bien, tu vois. Tu sais pas comment j'ai travaillé comme un chien pour avoir ce Louis Vuitton-là. Enfin, voilà. C'est aussi à la diaspora ou les gens qui vont à l'extérieur de faire ce travail, de dire la vérité. Faut dire ce qui est.
C'est vrai qu'il faut partager les galères de France. Mais tout à l'heure, tu parlais aussi des personnes éveillées. Donc, je ne sais pas si tu faisais référence, on va dire, à tout ce phénomène woke, déconstruit, panafricain, etc.
Ouais.
Mais quand tu écoutes leur discours, parce que j'ai, en ce moment, avec le coronavirus, j'ai le temps d'assister à des lives, il y a beaucoup de discours qui prônent la solidarité vis-à-vis de l'Afrique, ce retour vers l'Afrique, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas des dérives justement liées à ce phénomène ?
Bah ouais. Enfin, déjà, est-ce que toi tu te considères comme woke ? Désolée, je te repose une question derrière, mais juste pour savoir un peu.
À titre personnel, non, parce que j'estime que moi je suis comme tout le monde, j'ai ma part de choses auxquelles je suis consciente, mais d'autres je ne sais pas du tout, je suis ignorante de plein de choses, et il y a des choses où je suis dans le système, et ça ne me met pas, pour le moment je ne remets pas ça en question. Et pour moi aussi, ça a il y a une position condescendante que je ne partage pas, de dire il y a nous et il y a les autres. Moi je ne me mets pas dans ce sac.
Ok. Pour répondre à la question, oui, il y a des dérives. Justement, moi j'avais vu pendant Afro Nation, on est allé visiter une galerie d'architectes. Et on s'est rendu compte en fait que le mouvement woke avait été source de business. Parce qu'en fait, le guide dans la galerie d'architectes, justement, il utilisait ce discours, il utilisait les bons mots-clés. Hein. Oui, avant, on était tous des rois et des reines, on rayonnait, blablabla et tout. Justement pour inciter la clientèle américaine à venir acheter, à venir consommer, tu vois. Donc, pour moi, ouais, il y a des dérives par rapport à ça. Il y a des...
Non, je joue pas très bien l'exercice, mais à titre personnel, moi, j'aimerais dire que, en fait, être noir en France, c'est déjà, ou noir en Europe, c'est déjà assez source de problèmes. Et c'est compliqué. Donc, je pense qu'il serait déjà assez important que de se concentrer sur les problèmes de noir d'Europe ou de France avant de commencer à se tourner vers l'Afrique, parce que du coup, on arrive avec, comment dire, un état d'esprit qui n'est pas forcément adapté. Ça, c'est à titre personnel, parce que quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, j'avais moi plein d'idées de comment sauver et me sentir utile. Et je me suis prise plein de claques et je me suis rendu compte qu'en fait, en France, bah, j'avais trop de bagages que je portais sur moi, que je n'avais pas résolu et en fait que j'ai voulu verser sur les gens ici. Et heureusement, en fait, j'ai rencontré des gens qui ont su me parler, me foutre des claques quand il le fallait pour que je comprenne que je sois là ou pas, ça tourne.
Ah bah donc, oui.
Bah oui, c'est ça. Si tu veux contribuer, contribue, mais que tu sois là ou pas, ça
va marcher. Ouais. Y a pas, ouais, on n'a pas besoin que tu prennes l'avion pour agir, quoi. Y a pas besoin, en fait.
Ouais.
Est-ce que toi, quand Barack Obama est devenu président des États-Unis, est-ce que tu avais des remarques comme quoi, oui, Barack Obama, au final, il s'en fout des Africains. Est-ce que tu avais déjà entendu cette phrase-là?
Ouais, j'ai entendu cette phrase et j'ai aussi entendu quand il a gagné ses élections, sa première élection, c'était « il va sauver l'Afrique ». Et moi, je comprenais pas ce que je me disais. Barack Obama, il a été élu pour gouverner les États-Unis, qui est déjà un très très grand pays. Tout que l'Afrique, ouais, c'est dans son agenda comme tous les présidents. Mais...
Ouais, bah oui, mais sans plus, tu vois.
Ouais.
Et même, je me souviens, j'en avais parlé avec mes parents. Il disait, oui, mais Obama, il a rien fait pour les Africains, ils sont déçus. Tout. J'ai dit, mais attendez, vous vous attendez à quoi, en fait? Il dit, non, mais il est noir, il devrait savoir. Tu vois, il y a toujours ce truc, enfin, je sais pas pourquoi, je sais pas comment toi tu le vois, mais dans notre culture, il y a toujours ce truc qu'on attend que l'autre nous sauve, tu vois. Même si c'est pas le blanc, mais c'est quelqu'un de plus aisé que nous. Je pense sincèrement que c'est lié à notre histoire. Mmh. Je pense qu'à la base, on est plutôt communautaire qu'individualiste, voilà, de base, traditionnellement parlant. Je pense, moi c'est à titre personnel, je pense que ça vient de là. Mais ça, c'est aussi un autre exemple pour mettre en avant le phénomène de Black Savior.
Effectivement, c'est lié à l'histoire. Et t'as, comment ça s'appelle, Marie Scondé dans le livre « Ses goûts » et Ampa Teba dans L'Enfant Peul, qui décrit bien ce phénomène où tu vois, au début, les sociétés sont communautaires, tout le monde partage, tout le monde travaille. Mm. Puis petit à petit, avec l'arrivée des étrangers, donc que ce soit les Arabes ou bien après, tu arrives avec les Français ou on va dire les Européens, ce changement de comportement où les gens commencent à tendre la main et
c'est
à tendre les autres. Et si... quand tu tends la main, on ne te sauve pas. Si c'est quelqu'un de ta famille ou ton frère, tu vas essayer d'attraper sa main pour le tirer vers toi. Donc,
en
c'est
tout
le phénomène de panier de crabe.
Ouais. Il y a une chanson d'un chanteur camerounais. C'est une vieille chanson qui l'explique très bien. Le chanteur s'appelle Donnie Elwood. Et la chanson, c'est « Ma vie va changer ». Je pense que je t'avais lu les paroles la dernière fois. Tu te souviens ou pas?
Ouais.
Donc, en gros, il disait que son frère a été nommé et sa vie va changer parce que voilà, il aura une Mercedes climatisée, il va plus marcher dans le quartier, il va plus souffrir et tout parce que son frère est en haut, tu vois. Donc, c'est tout ça qui mine nos sociétés. C'est une vieille chanson, hein, mais qui est toujours d'actualité aujourd'hui pour moi.
Donc, voilà. Effectivement. Mais du coup, c'est. Il y a des gens, en fait, pour le moment, changer leur mentalité, ça va prendre du temps. Et ça se fera de génération en génération, je pense. Mais je pense que nous, à notre échelle, c'est vrai que si on a envie de contribuer ou d'agir, il faut être vigilant sur les dérives, donc à savoir adopter un comportement de Black Savior. Donc, est-ce que toi, tu aurais des tips ou des conseils à viser pour éviter d'avoir ces comportements qui pourraient justement avoir un impact négatif sur ce qu'on veut faire, en fait?
Ouais. Pour moi, ça serait plus des tips pour les gens, parce que c'est ce que je vois en ce moment beaucoup sur les réseaux sociaux, cette envie de retourner sur le continent, tu vois. Mm-hmm. Pour moi, dès qu'on arrive ici, on s'adapte, tu vois. On enlève, comme on a dit dans l'épisode précédent, tout ce qu'on connaissait avant, là, on jette ça, tu vois. Il y a un vrai travail de déconstruction de nos paradigmes à faire, on jette tout. et on apprend. On apprend, on s'adapte. Et surtout, surtout, pour moi, mais pour moi, ça, c'est aussi un travail que je fais pour moi-même, on apprend à se raconter les, enfin, à raconter les bonnes histoires, tu vois. Dans le sens où, au lieu de dire que oui, les politiques ne font rien, ceci, cela, on essaye quand même d'avoir des histoires positives. Mmh. Il y a tel entrepreneur qui a réussi à débloquer tel fonds pour telle association. Enfin, voilà, mettre tout ça en valeur. Pour moi, ce n'est pas où, à la petite brochette de volontaires et autres de raconter l'histoire de l'Afrique, tu vois. Donc, c'est à nous de faire ce travail, de raconter déjà nous-mêmes ces histoires, de faire plus confiance à nos semblables, parce qu'il ne faut pas se mentir, on ne se fait pas confiance entre nous. Je me souviens, mes parents, enfin, quand je dis mes parents, c'est pas que mon père et ma mère, mais ça peut être des tantes et tout. Enfin, au tout début, tu sais, quand on commençait à avoir des pilotes noirs dans les avions, quand ils voient que c'est un noir, ils se disent tu vois. Il y a des de méfiance. Enfin, on devrait apprendre à se faire confiance nous-mêmes. Pour moi, ça passe par se raconter les bonnes histoires. Il y a Chimamanda Ngozi Adichie qui le dit bien dans un de ses TED Talks. Le TED Talk s'appelle The Danger of a Single Story. En gros, elle explique, enfin, je vais pas vous faire de spoiler très rapidement, elle explique l'impact de la vision du monde à travers les histoires qu'on nous raconte. Elle donne l'exemple de son homme de ménage qui était à la maison et où sa maman racontait que les parents de ce jeune homme vivaient dans un village, ils avaient très peu de moyens et ils avaient besoin que le jeune homme travaille pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et elle racontait aussi l'épisode où elle allait justement au village en question. Et elle a vu que les parents avaient fait un panier en raffia, je pense, si je ne me trompe pas. Et elle se souvient être ébahie du fait qu'en fait, ils étaient capables, malgré leur peu de moyens, de faire ce genre de panier. Alors que si sa mère lui avait dit « oui, ils ont peu de moyens, mais c'est une famille battante et débrouillard », elle n'aurait pas eu cette réaction-là en face du panier. Donc pour moi, ça traduit juste l'importance de raconter les bonnes histoires, en fait. Au lieu, comme je disais précédemment, au lieu de dire que oui, les États et tout sont nuls et machin, il faut replacer les choses dans le contexte. L'Afrique redémarre avec des séquelles, esclavage, colonisation, décolonisation. Et on est, pour moi, d'après ce que je vois de mon entourage, on est plus au stade de victimisation, tu vois. Il y a une espèce de prise de conscience, surtout notre génération. On n'est plus au stade de « oui, mais il y a eu ci, il y a ça ». Non, non, non. Maintenant, on est au stade de « il y a un problème, comment on fait pour le résoudre ?» Et je pense que la génération d'après pourra avoir les outils justement pour faire ça.
C'est une belle conclusion. Hein. Merci. Non, non, c'est vrai que la manière dont on perçoit l'histoire, dont on la raconte, est hyper importante pour se l'approprier et faire changer les mentalités, parce que c'est, je pense, le plus gros travail à faire. C'est la valorisation et le renforcement du mental, dans le sens, l'Africain est capable, il peut faire, il a des idées, il peut faire bouger les choses. Et savoir aussi comment demander de l'aide, parce qu'effectivement on ne peut pas tout faire tout seul, mais il faut apprendre aussi à savoir comment demander de l'aide. Et pour ceux aussi qui veulent aider, il faut trouver sa bonne posture, toujours écouter en fait, celui qui a besoin d'aide, savoir ce dont il a besoin, comment il a besoin. Pour éviter, par exemple, comme tu dis, dans les problèmes de développement, c'est de construire, par exemple, un puits que les gens ne vont pas utiliser parce qu'on n'a pas pris en compte que les femmes, en fait, elles aiment bien aller chercher de l'eau parce que c'est le moment où elles se sociabilisent, elles sortent loin de leur foyer et pouvoir discuter entre elles. Donc, c'est toutes ces petites choses qu'il faut prendre en compte. Et pour ceux qui sont en Europe et qui aspirent à aider davantage, l'argent, c'est le nerf de la guerre.
Ouais.
Les gens en ont besoin. Donc, effectivement, beaucoup le font déjà en envoyant de l'argent à leur famille. Donc, c'est un phénomène qui est présent et qui est là. Et il y a aussi pouvoir aider, notamment que ce soit les associations ou le secteur privé, les entrepreneurs. Certains, avec juste 1000 euros, certains ils peuvent démarrer un truc et le laisser grossir, en fait. Donc, c'est tout ça.
Ouais. Le tout, c'est pas juste. Alors, en plus, ça c'est mon opinion, pour moi c'est pas juste des dons, hein. Faut investir, en fait. Demain tu investis 1000 euros dans la start-up, tu te mets en tant qu'actionnaire et tu attends les bénéfices, tu vois. C'est pas juste donner de l'argent pour... Non, faut investir, et pour moi c'est la seule manière pour que les choses décollent.
Effectivement. Après, pour ceux qui sont plus engagés ou qui ont un projet de venir s'installer, comme on a dit, hein, faut y aller.
On vous attend.
Se préparer. Vous allez vous prendre des gifles. Non, c'est vrai, c'est pas le Club Med. Ah non, non, mais c'est pas le Club Med. Ok, il y a le soleil, vous allez transpirer. Il y a des moments de joie, etc. Il y a les plages, mais au quotidien, c'est les montagnes russes. Hein. Demain, ça va aller super vite, ça va être très bien. Après, vous allez redescendre, mais comme un saut en parachute.
Mais que ça soit que vous soyez en contact avec des personnes, des Ivoiriennes ou encore des personnes extérieures, hein, vous avez... c'est chaud. Hein. Enfin, c'est chaud. C'est compliqué.
C'est une démarche. Après, voilà. Faut être conscient de dans quoi on s'embarque, en fait. Mais c'est une belle expérience, un bel apprentissage. En tout cas, merci Nikki pour ton investigation.
Merci à toi pour tes questions.
Voilà. Peut-être que je deviendrai journaliste un jour.
Toujours plus.
Donc, passons au kiff du moment pour conclure cet épisode qui était quand même assez intense.
Ouais.
Donc, toi en ce moment, qu'est-ce que tu aimes faire ou tu as envie de partager quelque chose avec nous?
J'ai trois kiffs en ce moment, il y en a un que je viens de rajouter. Mmh. Alors le premier, on a le même, c'est le podcast My African Cliché que j'ai découvert 2 ou 3 semaines, je sais pas, c'était quand qu'on avait partagé le lien, c'était il y a 2 ou 3 semaines. Hein.
Ça fait ça fait déjà plus de 2 semaines.
Ouais, ça fait plus de 2 semaines, meuf. Bon, c'est un détail, peu importe. Ouais. Il y a le podcast My African Cliché. Tu te souviens dans l'épisode Quête identitaire, je te disais que je savais pas ce que j'allais transmettre à mes enfants. Et ben, j'ai trouvé. Ça, je vais le mettre en berceuse carrément, tu vois. Donc pour moi, c'est très très important l'histoire. Moi, j'ai eu... j'ai trouvé tout ça par moi-même. On ne me l'a jamais enseigné à l'école, genre jamais de la vie. Donc pour moi, si mes enfants peuvent avoir cette avance-là, tu vois, si je peux leur mâcher un peu le travail, pour moi, ils auront un peu plus de temps pour emmagasiner d'autres choses, tu vois. Donc voilà, prochaine berceuse, ça sera ça. J'espère juste pouvoir trouver un moyen d'enregistrer tous les épisodes et c'est bon. Bien sûr, légalement. Hein.
Faut contacter le charmant monsieur.
C'est ça. En deuxième, c'est le live qu'on a vu la semaine dernière de ma Afro Week sur les plantes médicinales en Afrique. C'était un live hyper intéressant. Franchement, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert qu'il y avait une association de médecins africains, je ne savais pas du tout. Justement, qui travaillait sur les plantes médicinales traditionnelles. Ils donnent là, ils ont sorti un document avec des plantes qui pourraient prévenir contre le Covid, en gros, pour booster le système immunitaire. Enfin, franchement, top. C'est des trucs, en plus, qu'on connaît. J'ai lu un truc qui s'appelle Choco, là. Tu sais, l'inhalation. Ouais. Des herbes, et je me dis, mais c'est pas possible. En fait, on a tous la même chose, tu vois. Il y a des choses qu'on retrouve, que nos grands-mères faisaient, que nos mères font, que nos oncles font, mais on se rend pas compte à quel point ça peut être bénéfique et important, tu vois. Ouais. Donc voilà, je connaissais pas du tout. J'essaie un peu plus de me renseigner sur ce qu'ils font. Pendant ce live, ils racontaient comment les institutions pharmaceutiques fonctionnaient, comment la protection intellectuelle marchait pour les plantes médicinales, on peut pas protéger, on peut pas breveter une plante médicinale, on peut breveter une molécule active, mais pas la plante.
C'était pertinent, ça.
Ouais, ça, je savais pas du tout. Même le fait que, tu sais, il y avait un docteur béninois qui avait sorti la pivirine, la molécule qui est censée guérir le Covid. Le gars, son erreur, ça a été de dire... c'est un vieux médicament, en plus, il existe depuis plus de 20 ans, qui a été shut down aujourd'hui, bon, pour les raisons que je ne sais pas, mais on se doute bien ce que c'est. Donc voilà. Et pour montrer qu'en fait, on a des ressources, le continent a beaucoup de ressources, il faut juste qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ça et qui fassent le travail aussi. Il faut qu'il y ait des équipes, en fait, qui fassent le travail de reconstruction, de documentation, de recherche. Moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Ça a refait mon après-midi. Et le troisième, c'est un livre de Richard Dawkins. Franchement, c'est un livre que je vais lire depuis que j'étais à la fac, mais j'avoue pousser. C'est un livre de biologie. Ça s'appelle Le gène égoïste. Et en gros, ça raconte la sélection naturelle du point de vue d'un gène. En gros, le gars t'explique... Enfin, je viens tout juste de commencer. En gros, le gars t'explique à quel point les gènes sont égoïstes et qu'ils font tout dans l'intérêt de protéger l'espèce, en fait.
D'accord.
Voilà les trois kiffs du moment. Et toi?
J'espère que tu pourras nous en dire plus sur ce bouquin par la suite. Je ne pense pas que je lirai ça, ça a l'air trop scientifique, mais un résumé m'irait parfaitement.
Non, franchement, c'est pas scientifique du tout, il donne des exemples simples. Justement, il a essayé de simplifier au max pour que n'importe qui s'intéresse un minimum à la biologie ou à la zoologie puisse le lire.
Ok, je le mets dans ma liste alors.
Ok.
Pour moi, j'ai trois kiffs du moment aussi. Tout comme toi, donc il y a le podcast My African Cliché, qui est une belle découverte. Merci d'ailleurs pour le partage, hein, parce que je l'écoute, je crois, tous les jours quasiment.
Ouais.
Et en fait, ça me rappelle un peu mon père sur certains trucs, parce que c'est lui qui me disait, vas-y, tu dois lire ça, tu dois regarder ça. Et plein de choses que je découvre, des sujets auxquels je ne m'étais jamais intéressée, notamment, par exemple, l'hymne national.
Ouais.
Et des zones aussi, tout ce qui est Afrique de l'Est ou Afrique centrale. Bon, il y a certains pays, je m'intéresse à Afrique centrale, mais sans plus. Et là, donc, je découvre leur histoire et ça fait vraiment beaucoup de bien.
Mais surtout
son approche est trop bien.
Ouais,
les épisodes sont courts, donc du coup, c'est tu enregistres facilement l'information. Après,
exactement.
Moi, je suis un peu une geek poussée, c'est qu'après les épisodes, je vais sur Wikipédia et je recherche encore d'autres trucs.
T'as raison, il faut remettre en question toutes les informations qu'on a parce que, enfin voilà, il faut.
Mais non, je sais pas. Pour compléter certaines choses, parce qu'effectivement, son format est court, lui, ne peut pas se permettre de parler pendant des heures de certaines choses. Quoi.
Mais je sais pas pour toi, mais il avait soulevé, je sais plus dans quel épisode, hein, moi j'écoute en rafale, il avait soulevé un point justement pour parler de tout ce qui était représentation et l'histoire qu'on se racontait. Moi, je sais qu'au Cameroun, à l'époque où j'ai grandi au Cameroun, pour moi, l'Afrique de l'Est, à part la famine, j'avais aucune autre histoire de l'Afrique de l'Est. Hein. Tu sais, les Éthiopie, Somalie, toutes les images qu'on te montrait, c'était des enfants qui étaient en train de mourir de faim. Alors qu'aujourd'hui, avec du recul, quand tu t'intéresses un peu plus, aussi avec Internet et les réseaux sociaux, à l'époque, il n'y avait pas tout ça, tu te rends compte en fait que c'est incroyable comme région, tu vois. Alors qu'on n'avait pas ces ressources-là avant. Donc encore, pour revenir au fait d'où l'importance de se raconter les bonnes histoires.
C'est vrai que plus jeune, dans les médias, l'Afrique de l'Est, c'était famine.
C'est ça.
Éthiopie,
guerre.
Soudan, tout le temps, les guerres, on parlait que de ça. Après, avec le boom économique, on a commencé à avoir une autre vision de ces zones-là.
C'était safari d'abord.
Tourisme, safari. Voilà. Après, on a commencé à voir que ça s'est industrialisé, ça avait des croissances économiques intéressantes. Et moi, après, je suis tombée sur des articles sur notamment l'indépendance du Kenya. Donc, tu sais, le livre dont je t'avais parlé, Les figures de la révolution africaine, du coup, j'ai eu un autre visage du Kenya. Et je me dis, ah ouais, c'est hyper intéressant comme pays.
Ouais.
Et là, avec le podcast de ça, déjà l'histoire du Somalie, mais je connaissais pas. Hein. Donc, en fait, c'est un grand état qui a été
fragmenté
coupé comme ça.
Ouais.
Donc, je suis là en mode. Donc, c'est en 2020 que j'apprends ça, c'est hyper honteux, mais bon.
Non, c'est pas honteux. Enfin, si on. Écoute, meuf, c'est pas. On n'a pas appris à l'école. Enfin, je sais pas. Je doute fortement. Enfin, quand j'étais à l'école au Cameroun, on m'avait pas pris ça non plus. Hein. Après, moi, j'ai fait le système anglophone. Je sais pas si dans le système francophone, on apprenait ce genre de choses, mais non. Par exemple, Sundiata Kieta, je parlais avec un ami la dernière fois. Il dit, ah, ça, c'est un livre qu'on a lu étant jeune. Je fais, ah bon? Bah, écoute, moi, je l'ai découvert il y a même pas 5 ans, tu vois, au cours d'un voyage.
Non, je crois que Sundiata, dans le système francophone, il est étudié comme Samori Touré aussi.
Peut-être Afrique de l'Ouest. Moi, je ne pourrais pas parler pour l'Afrique centrale. Je sais que moi, dans le système anglophone, on allait étudier du chinois à Tchébé, tu vois, par exemple. Mais peut-être pas les autres. Donc, voilà.
Ok. Mes autres kiffs. Donc, le deuxième, c'est la série sénégalaise à succès Maîtresse d'un homme marié.
Encore.
Ah bah j'adore cette série, donc là c'est la saison 2 que je suis attentivement, ça fait du bien en plus en ce moment, c'est une évasion, hein. Je m'évade, je vais au Sénégal, donc c'est le plaisir de revoir toutes ces images de Dakar. J'avoue que je parle beaucoup du Sénégal, mais j'ai pas dit pourquoi, c'est parce que je vivais à temps partiel au Sénégal il y a 2 ans, donc c'est pour ça. Et le fait que ce soit en Wolof, je ne comprends pas le Wolof, mais ça fait, je trouve que ça rend la série authentique dans leur manière de délivrer leurs messages et leurs émotions. Et ça te montre aussi bien la critique de la société sénégalaise en termes de santé physique et mentale, le mariage, le travail, le rapport avec la belle famille, le rapport des femmes aussi, comment les femmes sont vues. Franchement, c'est super. C'est une très très bonne série. Et je tiens aussi à les féliciter sur le plan technique, parce que pendant bien longtemps, on disait que les séries films francophones d'Afrique francophone n'étaient pas de qualité, alors que là, l'appui technique, c'est bien. Le son est bien, les images sont bien, même le placement de produit est encore mieux fait dans la saison 2 que la saison 1, mais au top. Donc, d'accord, je le conseille, c'est sur YouTube, 30 minutes, c'est un délire.
Ça marche, c'est noté. Voilà.
Et la troisième chose, donc en ce moment, avec le Covid, je pense beaucoup à la Guinée-Bissau. Donc en plus de manger plus bissau-guinéen, etc., et m'entretenir avec la famille, j'écoute pas mal de musique. Et il y a un groupe que j'adore qui s'appelle Super Mama Jumbo. C'est un groupe qui a vu le jour dans les années 60 et qui a coûté jusqu'au milieu des années 80. Et c'est un groupe un peu... c'est un groupe engagé qui donc a beaucoup soutenu les mouvements d'indépendance et a encouragé les populations à se rendre compte de ce qui se passait et de se rebeller. Et après, donc, au moment de l'indépendance, quand l'indépendance était assez tardive, c'était en 73, a poussé les gens aussi à voir que la pseudo-démocratie auquel ils avaient accédé n'était pas bonne et a toujours dénoncé. Donc il y a des artistes qui ont dû d'ailleurs quitter le pays. Et donc moi, ça me fait chaud au cœur en ce moment parce que je me dis voilà, à l'époque, les artistes étaient engagés, il y en a encore, et que c'est vrai qu'il y a chacun sa manière en fait de dénoncer le système, de éveiller les consciences et de partager des informations.
Merci d'avoir écouté la deuxième partie de cet épisode. Direction la Côte d'Ivoire, le White Savior. On sera ravis de continuer l'échange avec vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou Twitter, ou bien par mail sur madameattrapetoncoeur@gmail.com.
Bon, c'était nous sur Madame Attrape Ton Cœur.
Merci de nous avoir écoutés, on espère que l'épisode vous a plu.
N'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux pour nous donner la force, poser des questions, donner votre avis et commenter.
On essaiera de vous répondre au prochain épisode.
Les liens sont disponibles dans la bio.
Prenez soin de vous, de vos proches et aimez-vous.
Salut !